Solidarité Santé, Claire Hédon.
Bienvenue à tous ceux qui nous rejoignent pour cette deuxième partie de Priorité Santé. Aujourd'hui, nous parlons de la prise en charge de l'alcoolisme, des progrès dans les traitements, plus particulièrement d'ailleurs du baclofène, ce vieux médicament qui était d'abord utilisé pour des traitements dans les maladies neurologiques. On en parle avec le professeur Olivier Amezen, qui est cardiologue, professeur en médecine à l'Université de l'État de New York. Il est expert international en addictologie et dans son dernier ouvrage, Le Dernier Verre, qui est paru aux éditions de Noël, il raconte sa descente aux enfers et surtout comment il s'en est sorti. Vous pouvez bien sûr continuer à nous appeler au 33 1 56 40 18 22. Et nous avons au téléphone le professeur Samuel Mampounza, qui est neuropsychiatre, ancien doyen de la faculté de l'université de Kinshasa. Il est actuellement doyen de l'université protestante en RDC. Professeur Mampounza, bonjour.
Bonjour madame.
Les problèmes d'alcoolisme, tout d'abord, sont-ils fréquents en RDC ?
Oui, les problèmes d'alcoolisme existent, mais je dois vite vous dire qu'ils ne sont pas aussi fréquents qu'en Occident pour des raisons simples. Pour consommer, il faut que l'alcool soit disponible. Or, en milieu traditionnel, la production est tout simplement artisanale, en faible quantité donc, et ceux qui les consomment, qui ont l'habitude de consommer, peuvent finir par devenir dépendants, donc alcooliques. En milieu urbain maintenant, là où les sociétés brassicoles sont parmi les rares encore dans nos milieux qui sont florissantes, effectivement, on trouve de plus en plus de personnes qui deviennent dépendantes à l'alcool. Donc le problème existe, mais en des proportions nettement inférieures de celles qu'on observe en Occident.
Est-ce que vous ne pensez pas aussi que c'est difficile d'avoir des chiffres parce que les gens n'osent pas venir consulter et que vous ne voyez pas forcément en consultation les gens qui ont un vrai problème d'alcool ?
C'est vrai que traditionnellement, les alcooliques sont bien tolérés, sont bien acceptés. On les connaît comme tels. Et en milieu traditionnel, quelqu'un qui est alcoolique, qui est dépendant, quand il a bu, il fonctionne tant bien que mal. Quand il n'a pas bu, il a des signes de manque, il dérange ou des conduites antisociales. C'est accepté. Mais c'est vrai qu'en milieu urbain, là où les personnes ont un travail, où visiblement il y a un problème de rendement ou de productivité qui se pose, ben, c'est vrai qu'ils viennent quand même de plus en plus. Mais en faire un problème de santé comme tel, vous avez raison, il y en a certainement qui ne savent même pas que ça se soigne et que donc il faut consulter un spécialiste.
Et ils ne savent pas forcément effectivement qu'ils sont eux-mêmes alcooliques. Quelle est la prise en charge que vous proposez ?
Ben, c'est vrai que le problème de la prise en charge, c'est toute une démarche. La première étape, elle se fait généralement en trois phases. Hein. La première phase rapidement, c'est qu'il faut que la personne devienne motivée. Se rendre compte qu'il a effectivement un problème et qu'il doit arrêter. Donc, on peut travailler la motivation de la personne. Ça, c'est la première phase. La deuxième phase, une fois que la personne est convaincue qu'il est nécessaire qu'elle arrête de boire pour des raisons de sociabilité, etc., on peut le prendre pour le sevrage, pour qu'il arrive à arrêter, à prendre une distance vis-à-vis de l'alcool. Cette phase peut durer 2-3 semaines, 1 mois. Elle se fait généralement en milieu hospitalier, sous couverture de benzodiazépines, pour des raisons qu'on peut facilement comprendre. Et la troisième phase, une fois que la personne a arrêté, c'est cette phase où il faut prévenir la réconsommation, si je peux m'exprimer ainsi. Parce que les rechutes sont nombreuses. Et c'est là où, effectivement, il y a un suivi assez régulier et qui dure longtemps, qui doit se faire, et le patient, enfin l'alcoolique, l'ancien alcoolique, est confié et soutenu par des structures qui peuvent exister en société, la Croix-Bleue, l'ancien alcoolique, etc.
Les alcooliques anonymes aussi sont présents en RDC ? Et les alcooliques anonymes aussi sont présents en RDC ?
Non, malheureusement, ces structures n'existent pas ici.
D'accord. Et quelles sont les difficultés que vous rencontrez dans la prise en charge, je dirais la même qu'un peu tous les addictologues, la question de la rechute ?
Oui, effectivement. Maintenant, par rapport à la rechute, on a essayé de produits qui diminuent l'appétence, l'envie de boire, ce plaisir, ainsi de suite. C'est là où s'inscrit le baclofène, qui est un vieux produit, les Lyorésal, en fait, hein, c'est comme ça qu'on l'a, appelé, on l'a utilisé au départ, hein, comme un relaxant. Un relaxant de la musculature.
Et vous, est-ce que vous l'utilisez?
J'ai eu à l'utiliser chez des patients expatriés qui en ont eu connaissance en Occident et qui sont venus, donc, qui travaillent ici. Alors, ils sont venus me voir, docteur, est-ce que je peux trouver ce produit ou un équivalent et qu'est-ce que vous me conseillez? Donc, j'ai eu quelques patients, effectivement, sous baclofène.
Et ce médicament, il est disponible ce médicament est disponible en RDC?
Malheureusement, ce médicament n'est pas disponible, mais il y a des pharmacies ici qui peuvent le commander, l'importer. Mais il faut rapidement dire aussi que ce n'est pas un produit qui est dénué de faits indésirables, hein, qui peuvent être assez sérieux.
Et justement, donc, qu'est-ce que vous avez constaté sur les patients qui l'ont pris, que vous avez suivi?
Eh bien, je me rappelle bien d'un ou de deux patients qui sont venus me voir, qui étaient complètement fatigués, qui avaient de la somnolence, la bouche qui était sèche. Il y a un qui avait la diarrhée même, des maux de tête. Et il y a un qui était un peu plus ou moins étourdi. Donc, les effets, selon les individus, peuvent être plus ou moins sérieux quand même, les effets indésirables.
Et est-ce que ces patients ont continué à prendre après le baclofène malgré ces effets indésirables?
Bon, bien sûr.
Ou vous avez peut-être, est-ce que c'est...
Souvent, oui. c'est un problème de posologie. Hein. Mmh. Il faut quand même dire que c'est un produit qui a une demi-vie suffisamment courte. Hein. Donc, qui exige, si on est très exposé, à les prendre quand même assez régulièrement. Donc, souvent, ceux qui ont des effets indésirables ont tendance à exagérer aussi dans la prise. Hein. Donc, il faut voir un médecin qui, lui, peut adapter la dose sur l'individu en fonction de son poids, de son âge, etc.
Professeur Amezen, est-ce que vous voulez réagir là-dessus? Effectivement, c'est important quand même de voir un médecin qui vous aide sur la question de la dose.
Tout à fait. D'abord, je salue M. Pompouza. Un jour, j'espère que vous m'inviterez en République démocratique du Congo.
Oui, allez-y, professeur Amezen.
Oui, alors les effets secondaires du baclofène, comme vous le savez sans doute, sont tout à fait anodins, c'est-à-dire qu'en fait, il n'y a pas un seul mort. Autant il y en a à la pénicilline, à l'édème de Quinque, à l'aspirine, on peut faire une hémorragie digestive, au doliprane, au paracétamol, où on peut mourir en en prenant. Et autant avec le baclofène, il n'y a pas un cas de mort répertorié, si je peux vous rassurer, en 50 ans d'existence, pas un. Donc vous pouvez être tranquille et le prescrire à n'importe quelle
mais
dose.
Mais simplement quand il y a des effets de somnolence trop importants, il y a un moment où ça devient
effet
un effet
somnolence,
secondaire trop...
Alors ils sont pas du tout. La somnolence, je l'ai bénie. Lorsqu'elle m'est arrivée, je me suis dit, enfin, je suis somnolent. Moi, j'étais quelqu'un, vous savez, souvent, les alcooliques sont, ce qu'on dit en anglais, restless. Ils ne peuvent pas dormir. Vous êtes d'accord, monsieur Maputo? Et ils sont...
Tout à fait.
Donc on n'arrive pas, etc. Et d'un seul coup, ça vous donne un apaisement. Et vous le verrez chez vos patients. Si vous voulez, je vous donnerai mon mail. Regardez mon site internet www.olivieramezen.fr. Et là, mettez-moi un mail. OK?
Et on va vous mettre, en tout cas, on vous donnera, professeur Mapuza, les coordonnées du professeur Amezen. Merci beaucoup,
oui,
professeur
Mapuza.
Merci, je rappelle que vous êtes neuropsychiatre, doyen de l'université protestante en RDC.
Priorité santé sur RFI.
Aujourd'hui, dans Priorité Santé sur RFI, je reçois le professeur Olivier Amezen qui a publié le dernier vers aux éditions de Noël dans lequel il raconte son parcours, sa descente aux enfers dans l'alcoolisme et puis aussi la façon dont il s'en est sorti grâce au baclofène. On a au téléphone Eddy, si je me trompe pas, qui nous appelle, excusez-moi, de Pointe-Noire au Congo. Eddy, bonjour, on vous écoute.
Bonjour.
Bonjour Eddy, on vous écoute.
Bonjour, bonjour à tous les auditeurs.
Oui, je vous salue.
Moi, chez moi, ce n'était pas le problème de dépendance à l'alcool comme la souligné pour ça. Chez moi, c'est vrai qu'on s'était quand j'effectuais les travaux intellectuels et intenses. Et donc, le soir, j'avais un peu de difficulté à dormir. Donc, je passais tout le temps à revoir ce que j'ai fait la journée. Et donc, pour avoir sommeil, je prenais un peu d'alcool et puis ça me soulageait. J'avais facilement sommeil. Je voulais savoir si le docteur pouvait peut soutenir cette thèse-là.
Est-ce que vous continuez à le faire, ça, de prendre un peu d'alcool quand vous avez du mal à vous endormir?
Oui,
vous continuez à le faire. Alors, professeur Amezen, je vais me permettre de répéter la question d'Eddie parce que la ligne n'est pas très bonne, donc on a un peu de mal à comprendre. Il dit, parfois, quand j'ai effectué un travail intellectuel intense, j'ai des difficultés à me concentrer, surtout après à m'endormir. Et je repense à tout ce que j'ai à faire. Alors, quand je prends de l'alcool, ça me soulage, ça me permet de dormir. Est-ce que c'est une bonne solution?
Alors, vous avez tout à fait raison. L'alcool est un, vous soulagera. L'alcool me soulageait. J'ai besoin d'alcool pour aller bien. Donc,
mais c'est pas une bonne solution.
Bah, écoutez, les effets secondaires de l'alcool, c'est la mort, le délirium tremens, la cirrhose du foie, etc. Donc, c'est pas la bonne solution pour vous traiter. Le baclofène, par contre, supprimera votre envie de boire. Et là, si vous m'entendez.
Parce que le problème, en fait, dans l'alcool, c'est qu'après, pour que ça continue à avoir de l'effet, il faut augmenter les doses, c'est ça,
pour
que ça?
Alors, non. Pour que, ça dépend. Il y a des gens qui ont besoin de faibles doses, mais pour la plupart, on a besoin on augmente par palier, comme le font les neurologues pour l'espace musculaire.
Oui, non, non, mais pour la question de l'alcool, là, oui. Le problème, c'est que les gens ont tendance à augmenter les doses pour avoir cet effet calmant.
Ils les augmentent jusqu'à ce qu'ils atteignent la dose seuil, comme je l'ai décrit dans mon livre. C'est la dose suppressive d'un symptôme. Et quand, ça peut être 40 mg pour une personne, ça peut être 300 mg pour une autre.
Merci beaucoup, Eddie. Vous l'avez compris, hein, l'idée
vous
de prendre de l'alcool.
Vous avez d'autres questions, Eddie?
Eddie, vous avez d'autres questions?
Il n'est plus là.
Merci.
Donc vous avez compris, hein, c'est quand même pas une bonne solution que de prendre de l'alcool pour s'endormir, pour se calmer, parce que le risque c'est d'augmenter les doses d'alcool. Je parlais pas du baclofène quand je vous posais cette question. Le risque c'est d'augmenter les doses d'alcool.
Devenir dépendant et de finalement mourir.
Et on a Robert qui nous appelle de Cotonou au Bénin. Robert, bonjour.
Bonjour Claire, je suis très content d'être sur RFI depuis que c'est allé à Cotonou. Je l'écoute très religieusement aussi et c'est la première fois que j'interviens.
Eh bien, merci beaucoup, on est content de vous entendre. Expliquez-nous ce qui vous arrive.
En fait, je suis marié à une femme russe et nous avons un souci d'alcoolisme et ça me crée énormément de problèmes. Et actuellement, elle est en plein dedans et quand elle commence, c'est pour 2 semaines, 10 jours. Et ça me crée énormément de problèmes. Alors, ça fait la deuxième fois que je prends des missions de ce genre au vol et j'aimerais savoir quoi faire pour la sortir de là.
Pour l'aider, c'est ça. C'est la question du comment aider son conjoint à sortir de l'alcool. Professeur Amezen, c'est très difficile pour l'entourage.
C'est terrible pour l'entourage. On voit dépérir la personne devant soi. Si vous pouvez me contacter, passez par mon site internet www. Vous m'entendez?
On a un problème de ligne avec Robert. On va lui transmettre, dommage. On va le rappeler, on va lui transmettre votre
c'est
site internet.
Parce que là, il peut mettre un email.
S'il peut consulter un médecin.
Il peut mettre un mail et je l'orienterai.
Et vous l'orienterez sur quelqu'un. Exactement. Très bien. Merci beaucoup, Robert. Surtout, bon courage à vous. On le sait effectivement que c'est très compliqué pour les conjoints d'alcooliques. Ouais. Je voudrais, professeur Amezen, qu'on parle des études en cours sur ce baclofène parce que la question, c'est que pour l'instant, il n'y a pas. On en est où? Est-ce qu'il y a des études scientifiques, des études cliniques qui montrent l'efficacité du baclofène et quelle efficacité?
Alors, il y a des. Alors, l'efficacité, ça dépend de ce qu'on appelle. Vous avez l'efficacité de l'homéopathie à soigner les rhumes, mais l'efficacité pour l'instant du baclofène à haute dose, qui est le. Pas dose, haute dose, une dose dépendante, n'existe pas. C'est-à-dire que tout ce que vous. Au mieux, vous pouvez obtenir, c'est ce qu'on appelle l'abstinence. C'est-à-dire que votre risque de rechute est immense. 90% des abstinents rechutent. Donc, on n'a pas de traitement pour l'instant.
Alors, on en est où des études cliniques sur l'efficacité du baclofène? Donc, des études scientifiques.
Oui, alors malheureusement, il n'y a pas scientifique, c'est un bien grand mot, hein, je ne veux pas aller jusque-là. On a des études de mauvaise qualité pour l'instant. Et pour l'instant, on est très loin. Je pense qu'on se passera des études parce que, heureusement, comme le disait Jérôme Posner, qui est une légende de la neurologie, il y a des moments où on se base sur des cas cliniques.
Alors, c'est effectivement ce que vous demandez, vous, pour l'instant, c'est que ce baclofène, en attendant qu'il y ait des études cliniques qui prouvent son efficacité, soit utilisé par les addictologues, puisque c'est un moyen de sauver des vies. C'est ça, en gros, ce que vous demandez
c'est
pour
pas
l'instant.
Les... Oui, c'est pas alors les addictologues qui le font, parce que les addictologues ont un conflit d'intérêts. Pour eux, voir un patient guérir, il faut oublier, moi j'ai un slogan que je peux donner, c'est l'addictologie. L'addictologie, c'est-à-dire qu'il faut qu'il soit au logis et pas voir un addictologue. L'addictologie n'existe pas plus qu'autre chose. C'est-à-dire qu'un addictologue aujourd'hui ne sait pas soigner l'alcoolisme. Donc ça ne sert à rien d'avoir un addictologue. Il faut voir un généraliste.
Il y a un certain nombre d'addictologues qui prescrivent tout à fait le baclofène. Il y a eu une tribune dans Le Monde au début du mois de février, dans lequel ils sont, ils le disent, ils citent bien les sources, ils disent bien que c'est vous qui avez découvert l'utilisation de ce baclofène. Ils l'utilisent, ils le préconisent d'ailleurs. C'est une tribune signée par des addictologues, psychiatres, et médecins généralistes.
Bien.
Et donc ils l'utilisent. Donc il y a des addictologues qui l'utilisent pour l'instant.
Ils l'utilisent mal. Malheureusement, ils me consultent pas. Donc c'est dommage parce que
ils disent bien que c'est efficace. Hein, ils disent souvent dans
efficace. Ils arrivent à quoi? Ils le disent dans l'essai de Rigal et Jory. Ils disent que ça permet d'être abstinent. Abstinent, c'est dire que vous êtes obligé, les abstinents rechutent. Quand vous êtes abstinent, tout ce que vous avez envie, c'est de boire un verre. C'est la même chose quand vous ne l'êtes pas. Et donc leurs essais à 400 mg ne sont pas meilleurs que celui de Adolorato et et al, qui utilisent 30 mg par jour. Donc je ne sais pas pourquoi ils vont utiliser 400 mg par jour, je ne comprends pas du tout.
Vous faites référence à une étude préliminaire qui est parue il y a 2 semaines dans la revue Alcool et Alcoolisme, qui a été réalisée sur 132 patients, qui montre que 58% des patients sont devenus soit abstinents, soit consommateurs modérés. Donc ils ne parlent pas tous d'abstinence, ils parlent aussi de consommation modérée. Oui. Ce sont déjà quand même des chiffres qui... Vous devriez être content, ce sont des chiffres très encourageants.
Pas du tout,
c'est là.
Pas du tout, parce
pourquoi
que...
vous n'êtes pas content, ce sont des chiffres très encourageants.
Non, parce que je suis scientifique. Avec n'importe quel médicament aujourd'hui, que vous preniez la naltrexone, le médicament qui existe sur le marché, qui est commercialisé sous le nom de Revia, avec la camprosate, avec...
Ce sont d'autres médicaments qui servent...
Vous arrivez exactement au taux d'abstinence. Alors là, je vais vous faire rire.
Ah non, ils disent bien que comparé aux autres traitements qu'ils ont d'habitude, ils disent que c'est 25% de réussite les autres cas. Ah donc
non,
beaucoup moins que ce qu'avec le baclofène.
Pas du tout. Ils devraient prendre l'étude de Bancole Johnson dans JAMA sur le topiramate. Non, ils ne connaissent pas bien la question. C'est pas grave. Mais non. Tout ce qu'ils font, c'est arriver à obtenir...
Alors, ce que je trouve étonnant...
Alors, expliquez-moi une chose. Pourquoi eux arrivent à obtenir l'abstinence à 300 mg par jour, 400, alors que Adolorato et son équipe, qui sont des gens qui travaillent dessus, utilisent 30 mg par jour, arrivent exactement au même résultat. Alors, c'est un peu comme si vous disiez pour la pénicilline, moi j'ai besoin d'utiliser au lieu de 3 clamoxyl par jour, j'en utilise 30.
Alors, quelles sont les autres études? Vous êtes contre cette étude clinique-là? Quelles sont les autres études cliniques qui sont en cours?
Pourquoi je ne suis pas contre? Parce que qui la paye? Qui la finance? Vous? Moi? Les deniers de l'assistance publique? Une espèce de mécène suisse, entre guillemets, je ne connais
qui
pas.
Qui souhaite rester anonyme.
Oui, exactement. Et on se demande pourquoi? Parce que moi, je serais mécène de suite. Enfin, bon, manifestement, cette étude est pilotée d'ailleurs par le professeur Michel Reynaud.
Vous parlez d'autres études qui vont démarrer en mai et en septembre en France, des études cliniques?
Oui, elles ne servent. Alors là, je vais vous dire, elles ne servent à rien. Et pourquoi? Pourquoi? Parce que le ministre de la Santé, Xavier Bertrand, a dit clairement qu'un essai qui sera fait contre placebo ne sera pas approuvé. Et il a raison. Si aujourd'hui vous trouviez un nouvel antidépresseur et vous le comparez au placebo, vous direz, mais attendez... Pourquoi
vous demandez que ce soit comparé avec un traitement...
Je le demande, je suis allé voir, c'est
dans
même...
Ce que vous demandez dans votre ouvrage, à la fin de votre ouvrage, vous demandez des essais contre placebo. Au début, c'est bien ce que vous demandez.
Mais non, vous l'avez mal lu. Je demande des essais contre le meilleur médicament existant, c'est-à-dire la naltrexone.
Il y a une autre étude qui est en cours aux Pays-Bas. Cette étude, elle est faite comment
Alors là
aussi, vous y participez à cette étude,
oui,
pourtant vous êtes consultant.
Oui, je l'étais. J'ai refusé de l'être parce que j'ai été contacté par RGI Virse. Il m'a parlé. En fait, là aussi, il y a un conflit d'intérêts qui n'est pas nécessairement conscient, mais enfin, peu importe. Je dirais, ils font ce qu'ils veulent.
Ils ont un mécène
et comme par hasard, un labo pharmaceutique derrière. Donc, on se demande, je veux dire, pourquoi ne pas faire un essai financé cette fois par l'État? Et là, je me permets...
En France, les deux essais qui vont être en cours sont financés justement par l'État,
par l'industrie pharmaceutique.
Alors, pourquoi ça ne trouve pas grâce à vos yeux?
Je peux vous dire quelque chose? Alors justement, ils seront financés par... ils vont commencer en je sais plus quand. Ils seront finis...
Un au mois de mai, l'autre au mois de septembre.
C'est-à-dire qu'ils seront terminés quand?
Ils seront terminés en 2014, ils disent.
J'ai demandé à un monsieur de l'AFSAP, je ne sais plus son nom, peu importe, et à deux d'ailleurs... quand votre essai sera-t-il terminé? Parce qu'il y a quand même 120 morts par jour en France. Alors je lui ai dit quand ça sera fini. Il m'a dit il sera fini, je sais pas quoi. Mais quand il sera fini, on aura le problème que le ministre de la Santé vous dira, d'accord, mais on ne peut pas l'approuver.
Je vous arrête là-dessus. Les médecins addictologues, que ce soit généralistes, addictologues, psychiatres, continuent à prescrire le baclofène en parallèle de ces études. Les études scientifiques n'empêchent pas de prescrire le baclofène.
Ce sont
deux choses séparées.
Ce
que je ne comprends pas très bien, c'est qu'il n'y a aucune étude clinique qui trouve grâce à vos yeux pour l'instant, dans le monde. Il n'y en a pas qui trouve grâce à vos yeux.
Parce qu'elles sont de mauvaise qualité. Alors, on va pas attendre un essai de bonne qualité qui viendra dans 10 ans, peut-être. Vous savez, c'est comme l'ulcère, Barry Marshall et Serra, qui ont eu des Nobel de médecine. On n'a pas attendu ceci ou cela. Donc, ces essais sont de mauvaise qualité, je n'y peux rien.
Il n'y a aucun essai clinique actuellement dans le monde que vous trouvez mené correctement?
Non, parce
aucun.
Que je leur ai demandé d'y participer.
Aucun, même aux États-Unis, rien, il n'y en a aucun qui sont faits correctement pour vous.
Parce qu'il existe pour tous des conflits d'intérêts. C'est-à-dire qu'ils font les choses, ils le font d'abord sans moi, et ils le font pour arriver à quoi? Tous vont vous dire, que ce soit le professeur Jory, il vous dit comme par hasard, c'est curieux, tiens, il va y avoir une forme retardée, ils veulent breveter un nouveau médicament. Même chose pour docteur Virse aux Pays-Bas, ils veulent en fait, ce médicament ne coûte rien, il coûte le prix d'un café au comptoir. Donc eux, ils veulent vous commercialiser. D'ailleurs, en ce moment, le Nalmefen qui va s'appeler Salincro, le GHP qui est la drogue du violeur, ils vont vous mettre sur le marché des médicaments extraordinairement dangereux. Donc, je veux dire, je leur laisse la responsabilité. Je vais mettre un warning à la Food and Drug Administration des États-Unis. Ce qu'ils font est grave.
Pour terminer, je vous propose de parler du 5e colloque France-Maghreb sur la transplantation d'organes.
Priorité santé sur RFI.
Et nous avons en ligne Béatrice Senmo. Bonjour. Vous êtes responsable de l'unité relations internationales et éthiques à l'agence de biomédecine. Le 5e colloque France-Maghreb sur la transplantation d'organes, de tissus et de cellules s'est tenu à Nice les 23 et 24 mars. Alors pourquoi ce colloque?
Alors ce colloque, pour nous, c'est un rendez-vous très important avec les trois pays du Maghreb avec lesquels on a une coopération depuis plus d'une dizaine d'années. Et c'est une réunion qui a lieu tous les 2 ans depuis 2003 et qui nous permet d'échanger. Enfin, c'est une réunion où les acteurs aussi bien institutionnels que professionnels d'Algérie, de France, de Maroc et de la Tunisie peuvent échanger ensemble sur en fait les aspects de santé publique et d'organisation dans le domaine de la transplantation, dans les contextes de leur pays où les ressources, l'accès aux soins sont parfois limités, et aussi qu'on puisse réfléchir ensemble aux modalités de coopération entre pays pour développer...
Et justement, cette coopération, elle consiste en quoi concrètement?
Alors la coopération, elle consiste. On a démarré avec le Maroc déjà en 80. Enfin, d'abord avec la Tunisie en 98, puis avec le Maroc en 99, avec l'Algérie un petit peu plus tard. Elle consiste en fait. Alors la première chose, c'est que les pays soient dotés d'une loi, d'un cadre législatif satisfaisant, qui évite toutes les débordements ou les problèmes qui sont liés à la transplantation et au don d'organes. Donc première chose, aider les pays à mettre au point leurs lois. Deuxième chose, bien sûr, former des équipes médico-chirurgicales compétentes, capables de performer des greffes, parce que il faut évidemment avoir
une formation pour ça,
faire des greffes. Et puis ensuite, organiser l'activité, parce qu'on sait que l'activité de greffe, c'est une activité complexe qui nécessite beaucoup d'intervenants, que ce soit à l'intérieur de l'hôpital, il y a les laboratoires, il y a la radio, il y a l'administration, il y a beaucoup de gens qui interviennent. Donc dans l'hôpital et aussi entre hôpitaux et bien sûr aussi au niveau national, organiser et mettre en place tout ce qui est le prélèvement, notamment sur donneurs décédés, les règles de répartition des organes, la régulation de l'activité.
Et quelles sont les transplantations qui ont déjà été réalisées dans ces pays du Maghreb ?
Alors, dans ces pays du Maghreb, la grosse priorité, c'est la transplantation rénale, et les trois pays du Maghreb la pratiquent, sachant que on a dans ces pays un gros problème partout d'insuffisance rénale chronique qui comme beaucoup de maladies chroniques qui explosent un petit peu partout, et que ces pays ont mis en place le traitement substitutif de choix qui est la dialyse pour cette insuffisance rénale chronique, mais qui à terme revient
très cher,
et qui aussi pour la qualité de vie des malades à long terme.
D'où l'intérêt de ces greffes du rein. Donc c'est cette partie-là.
L'intérêt de développer la greffe rénale absolument en priorité, et ça c'est une priorité de santé publique, non seulement dans ces pays, mais dans l'ensemble du monde et dans tous les pays en transition.
Merci beaucoup Béatrice Sénémo. Je rappelle que vous êtes responsable de l'unité relations internationales et éthiques à l'Agence de biomédecine. On vous réinvitera pour parler plus longuement de ces questions de grève dans les pays du Maghreb. Merci beaucoup à vous. Professeur Amezen, vous voulez un mot de conclusion ?
Oui, je voudrais juste vous demander si vous traitez les hypertensions artérielles, parce que l'insuffisance rénale vient de là. Et pourquoi en arrive-t-on là ? C'est-à-dire, il faut utiliser les traitements de l'hypertension artérielle.
Mais c'est bien des problèmes dans tous ces pays-là, justement, de traiter l'hypertension artérielle. Un mot de conclusion sur l'alcoolisme, professeur Amezen. J'aurais juste voulu savoir, qu'est-ce que vous faites aujourd'hui ?
Alors, d'abord, j'enseigne là-bas, ensuite aux États-Unis, bien sûr. J'enseigne un peu partout dans le monde, puisque je suis invité à l'université de Zurich, enfin toute l'université, je ne peux pas me rendre partout, hein, Melbourne, etc. Et j'aurai une consultation et surtout je vais commencer à animer des groupes particuliers qui ne seront pas des groupes de parole au sens prétentieux du terme, qui seront simplement...
Merci beaucoup professeur Amezen, je suis désolée, on arrive à la fin de cette émission, je rappelle que vous avez publié le dernier vers aux éditions de Noël, et demain nous parlerons du sida, à demain.